Salut les bourrinos, c'est Rhône et c'est reparti pour un nouvel épisode de Scoring, pour l'ultime épisode de Scoring dont la thématique est les génériques de fin. Les génériques de fin, pour faire une petite allégorie restaurant là, Creeper. Je dis ça tout de suite avant de te dire bonjour même. Tu vois, t'as bien mangé au restaurant le midi. T'es content, t'as pris ton dessert. Si on te sert un café dégueulasse, ben l'air de rien, t'apprécieras moins ton repas.
Ah ouais, tu resteras sur une mauvaise
note. Ouais. C'est ça. D'accord. Un café ordinaire, ça va. S'il y a un spéculoos, c'est déjà un peu mieux. Mais si t'as un café qui est onctueux et qu'on te donne en même temps une petite madeleine aux amandes, tu sais, là, qui va fondre dans la bouche, bah, ce sera parfait. Et bah, c'est ça, les génériques de fin. C'est la petite note d'intention jusqu'au bout. Le petit truc pas indispensable, mais qui fait du bien. Et j'aime bien, moi, les génériques de fin, camarade.
Et puis, comme disait un grand philosophe dans un film assez connu, tout ce qui a un début a une fin, voilà. Et en plus, tu fais la comparaison avec le café, et là, aujourd'hui, on est carrément dans le café gourmand. C'est-à-dire qu'on a une tracklist de qualité. Voilà, on est là pour cet ultime scoring qui... Voilà, on veut rester joyeux, on veut être là, on veut passer un bon moment, on n'est pas là pour larmoyer, voilà, on est là pour vous remercier déjà pour toutes ces années, pour avoir écouté Scoring de manière aussi assidue, d'avoir été vraiment nombreux à nous faire des retours sur les différentes tracklists qu'on vous a proposées au fil des ans. Voilà, donc c'est parti pour ce dernier Scoring, et on va démarrer sur les chapeaux de roue. Everything is awesome.
Alors déjà, inutile de me remercier, hein, vous avez ça dans la tête maintenant pour au moins 2-3 semaines, c'est cadeau, ça fait plaisir. Pour l'ouverture, j'ai hésité entre plusieurs choses et finalement j'ai retenu la grande aventure Lego parce que je trouve que ça a la patate.
C'est vrai.
Je trouve que c'est rigolo et ce générique est super beau parce que pendant tout le générique de fin, on a des constructions, il se passe des tas de choses, on a les Lego de toutes les époques, c'est super agréable à regarder. Et moi, c'est un bon souvenir. Alors, c'est marrant, je sais pas pour toi, mais moi, les génériques de fin, c'est vraiment associé à des souvenirs. C'est des trucs qui marquent un peu, quoi. Et c'est vraiment un bon souvenir parce que c'est un film dont j'attendais, mais tellement rien.
Oui, bah, limite, un film d'égo, bien sûr. Ouais, c'est clair.
Ouais, je m'en foutais. Je l'ai regardé, mais en mode très, très décontracté. Et puis, quelle surprise, le film est cool. Limite, il raconte plus de choses sur notre société que des pensums qui veulent absolument te faire la leçon. Mmh. Et puis, la fin, voilà. Il y a cette musique, ce générique qui est complètement autre, quelque part, tellement c'est abusé. Et quand on regarde le film, c'est presque impossible de pas l'avoir dans la tête et de chanter à tue-tête « Tout est super génial ». Alors oui, j'ai pas trouvé en bonne qualité le générique en français. Ce que je regrette, parce que je le préfère à la version américaine, parce que les Américains, ils disent déjà tout le temps « Awesome », etc. Quoi. Ouais. Mais quand c'est en français, ça devient bizarre, quoi. « Tout est super génial », c'est encore plus décalé, je trouve, et c'est une espèce d'enthousiasme complètement exagéré.
Ouais, puis avec la voix aussi qui colle, « Tout est super génial !» C'est non, la musique est cool, et comme toi, la surprise était un peu totale, parce que, pareil, j'en attendais rien. Après, il y avait quand même Lord et Miller à la réal qui sont plutôt doués, je trouve, dans ce style-là, qui avaient déjà fait aussi. Je crois que c'était eux qui avaient fait le truc de Tempête Géante. Je crois que c'est eux qui avaient fait ça. Alors, peut-être que je me gourre.
Qui est très bien, Boulet de Tempête Géante. Vraiment, je sais plus si c'est bien.
Ouais, qui est vraiment très très cool. Et là, ouais, les aventures Lego, en plus, t'as le côté méta qui était pas aussi présent, de mémoire, en 2014.
C'était pas galvaudé comme
ouais,
aujourd'hui.
Voilà, qui était plutôt bien amené dans le truc. Et en plus, comme on est avec Lego, et que Lego, clairement, c'est une usine à utiliser les franchises. Et non, ça le fait plutôt bien, et techniquement, c'était vraiment chouette. Et les suites sont loin d'être au même niveau que soit le Lego Batman, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Donc, très belle surprise, la grande aventure Lego.
Et donc une bonne façon de démarrer avec la patate. Et là, on va aller faire un petit tour en France pour un film, figure-toi, et c'est la honte, que j'ai même pas vu.
Tu sais ce qu'on a toujours dit, Ron, dans VHS et Canapé, c'est pas grave de pas avoir vu un film, c'est toujours l'occasion de se faire plaisir. Voilà, en découvrant quelque chose.
Il est raté, quand j'ai pu y aller, il était plus.
Mais c'est encore moins grave parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le film a, semble-t-il, plutôt bien marché au cinéma. Le bouche à oreille a été vraiment très bon. Et on a toujours pas dit le nom du film, c'est Vermine, parce que je pense que la musique, vous la connaissez pas encore, hein, forcément. Vermine qui est sorti en salle en début d'année, qui a fait son petit buzz avec ses araignées, etc. Et j'y suis allé vraiment, alors à double tranchant, parce qu'il y a toujours ces échos de festivals où on dit voilà, le film est vraiment génial, et parfois dès que tu découvres le truc ça se dégonfle un petit peu. Et ben là, sur le cas de Vermine, je trouve que c'est une excellente surprise, parce que déjà il assume parfaitement le fait d'être un pur film d'horreur avec des araignées, et ce qui est très très bon, et on sent que ça a été bossé, c'est qu'il y a vraiment cette faculté d'utiliser les événements quotidiens qu'on a déjà eu à faire face avec une araignée. C'est-à-dire d'être face à une araignée dans la salle de bain et de d'un seul coup se retrouver nez à nez avec elle et de se retrouver comme un con. Le fait de vouloir en écraser une alors qu'elle bouge pas et au moment où t'approches, elle finit par essayer de te sauter dessus, je sais pas, donc tu finis par avoir peur. Voilà, donc ça utilise vraiment toutes ces petites choses de manière assez cool et le film est assez violent, assez graphique, assez dégueulasse comme il faut. Et moi qui pourtant n'ai pas la peur des araignées, bah, y a vraiment des moments où j'ai pas vraiment envie de me retrouver dans la même situation.
Moi je l'ai, enfin hein, je me soigne, hein, mais je suis un ancien arachnophobe,
d'accord,
authentique. C'est-à-dire, petite anecdote, hein, lâchons-nous. Un soir, je suis rentré chez moi alors que j'habitais à Montreuil. Alors, je suis rentré certes très tard et donc probablement dans un état de qui n'était pas, on va dire, totalement. Enfin, j'avais un niveau d'intégrité qui n'était pas total. Entre moi et ma porte, une araignée qui, alors, dans mes yeux à ce moment-là, faisait peut-être 44 cm de large, quoi. Enfin, un truc, oui. Une espèce de steak monstrueux. J'ai mis 30 minutes à me décider à rentrer chez moi.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est
J'essayais de souffler dessus, ouais, taper du pied pour qu'elle se barre, enfin, tous les trucs possibles et imaginables. Mmh. Donc voilà, donc j'ai. Arachnophobia, ça a été dur pour moi, par exemple.
Ah bah, écoute, arachnophobia, à côté, c'est un Walt Disney, tu vois.
C'est plutôt rigolard, mais.
Mais c'est vrai que sur Vermine, vraiment, je pense que les gens qui ont peur des araignées, justement, et même un ancien arachnophobe pourrait, ouais, se dire, ouh là 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 là, c'est un petit peu tendu. Il y a vraiment des passages très tendus, je dis absolument rien. Et en plus de ça, bah, le sound design est excellent. Vraiment, il y a un travail sur le son qui est impeccable dans ce film. Et là, on a écouté la bande-son, enfin, un morceau de la bande-son composé par Xavier Coe et Douglas Cabana. Alors, il semblerait que ça fasse un groupe qui s'appelle Double Danger. Et je sais pas s'ils ont bossé sur d'autres éléments sonores dans le film, mais globalement, techniquement, je trouve que pour un premier film, parce que même si le réal Sébastien Vanisek a fait pas mal de courts-métrages, et bah on sent que le gars, techniquement, c'est intéressant. Et il semblerait qu'il se soit déjà fait mettre le grappin pour aller faire un nouvel Evil Dead aux États-Unis. Okay. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, moi j'avais été vraiment étonné par la tenue visuelle du film qui est vraiment réussie. Donc j'espère que ce monsieur ira loin et qu'il se fera pas bouffer par le système hollywoodien. Voilà, parce que dès un premier film, on a déjà vu pas mal.
Ouais, ça peut être risqué. Ouais.
C'est un petit peu risqué. Dans tous les cas, si vous avez l'occasion de voir Vermine, je pense bientôt, que ce soit en VOD ou sur Canal, etc., ou en DVD Blu-ray, n'hésitez pas. Franchement, ça vaut le coup.
Ah, puis j'adore la musique que t'as choisie, là. Cette générique de fin, depuis le temps, de toute façon, tu me connais, hein, une musique qui fonctionne avec des couches qui s'ajoutent les unes aux autres et qui grossit. Moi, j'adore ça et je trouve ça très, très bien fait.
Ah bah top. Mais je pense que le film te plaira et j'ai hâte d'avoir ton retour. Allez, on quitte le cinéma et on part déjà vers le jeu vidéo. Top the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stone. Braiding hair. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Take us back, oh, take us back.
Alors pour les plus assidus, je pense que j'ai déjà diffusé ce morceau.
Il y a des chances.
En fait, ouais. Je pense, j'en suis même à peu près sûr. Mais pas grave, j'ai envie de dire, parce que par rapport au sujet du jour, pour moi, ça s'imposait. Puisque c'est la chanson qu'on entend à la fin de The Walking Dead, le jeu de Telltale. Et c'est un jeu, moi, qui m'a beaucoup marqué, en fait, Walking Dead. Beaucoup plus que la série, assez nettement même. Et ce qui n'était pas gagné, parce qu'en général, les adaptations, c'est pas trop là, en jeu vidéo, où on trouve les plus belles choses. Il y a des exceptions, je sais.
Il y en a, ouais.
Mais on va dire que, d'une façon générale, c'est quand même pas souvent le cas.
Surtout à l'époque.
Oui.
Ouais.
Et là, on avait un parti pris avec un point and click qui a la grande intelligence de ne pas chercher à singer la série, mais plutôt à prendre l'environnement. Et finalement, ça pourrait s'appeler autre chose que Walking Dead, hein. C'est une histoire de zombies, comme on en a vu un million de fois dans des tas de films. Ce qui se passe dans le jeu n'est pas réellement surprenant. Quand on est habitué aux films de zomblard, on a des situations qu'on a déjà vues, on a un déroulement qu'on connaît. De toute façon, les films de zombies sont tous sur le même canevas, donc il n'y a pas de grande surprise. Par contre, le point fort de ce jeu, c'était une relation entre le héros, Lee, le personnage qu'on joue, et une petite fille, Clementine, et ça marchait incroyablement bien. Super bien écrit. Et au gré de l'avancée dans le jeu, c'était difficile de pas s'attacher à la gamine et du coup de s'identifier au personnage principal. Jusqu'à la fin du jeu qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les fins de films de zombies, donc sans la nommer, je crois que les habitués devinent, où on termine le jeu du coup en étant assez marqué par ce qui se passe, en restant un peu suspendu comme ça. Sur tout ce qu'on a vu, sur toute cette aventure. Et là, la musique prend la suite, le générique démarre, et je trouve qu'il y a une unité qui est géniale entre les deux. C'est une musique qui est un petit peu douce, qui est plutôt jolie, également mélancolique, et finalement, ouais, on a vu des trucs un petit peu tristes, ça colle avec la mélancolie, mais il y a aussi ce ton très très doux qui colle avec les dernières thématiques qui sont abordées dans le jeu. Donc je trouve ça très beau, en fait, cette chanson d'une certaine Alela Diane. Je ne connais pas par ailleurs, mais elle chante très bien, cette jeune femme. Enfin, jeune, j'en sais rien, finalement, on l'a entendu.
À l'époque, elle était peut-être jeune. Bah...
Peut-être. on ne sait pas. Donc en jeu vidéo, voilà, il y avait discussion avec Portal, j'hésitais un petit peu, puis c'est celle-ci que j'ai retenue au final. Allez, je vais garder la main. Cette fois-ci, je vais aller faire un petit tour du côté de la comédie et du côté de l'Asie.
Bye.
disais tout à l'heure que dans cette émission, les génériques de fin, c'est pas mal associé à des souvenirs. Bah là, c'est aussi le cas, puisque Le Marin des Mers de Chine, c'est le premier film de Jackie Chan que j'ai vu au cinéma. C'est un film qui est sorti en 83, mais en France, c'était en 88. Donc voilà, j'avais 15 piges, je suis allé voir ça suite à un très bon article dans Starfix qui nous expliquait qu'il y avait un petit gars qui faisait des bons partout et que ça m'avait l'air d'être bien sympa. Je me suis dit, bah foi, ça me semble quelque chose de très intéressant à aller regarder. Et ça a été une drôle de claque quand même, parce que quand on n'a jamais vu un Jackie Chan regarder Le Marin des Mers de Chine au cinéma, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais.
Ouais, je l'avais déjà dit, elle est dans une émission, mais c'est quand comme je me suis retrouvé devant mon premier Jackie Chan, tu te dis, ah putain, un film d'action, ça peut être comme ça aussi.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un truc qui est quand même assez marquant. Et pourquoi je voulais absolument un film de Jackie Chan dans les génériques de fin? Bah les habitués le savent, hein. C'est parce que dans les génériques de fin des films avec Jackie Chan, il y a un bêtisier.
Ouais.
Voilà. Alors, ok. C'est des mecs qui se pètent la gueule. C'est pas les bêtises les plus immenses du monde. Hein. C'est Jackie Chan qui ricane en donnant des petits coups dans les épaules de ses copains en disant « Ah, t'as bien merdé » ou bien « Oulala, j'ai eu chaud ». N'empêche que, il suffit de ça pour qu'on soit maintenu à regarder le générique. Ça marche, le truc.
Ouais.
Donc, on le suit vraiment jusqu'à la fin. Et je pense que quand on a vu un ou deux, tu regardes n'importe quel film avec Jackie Chan. Mais t'attends le générique pour avoir...
Quand j'avais vu Jackie Chan dans le Bronx, et que justement, je découvrais un peu le cinéma de Jackie Chan, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais en fait, ah ouais, il le fait vraiment. Quoi. C'est ça, quand tu n'as pas l'habitude, ah ouais, il le fait vraiment. Il saute d'une fenêtre à l'autre, voilà, c'est... C'est assez impressionnant, comme ouais, ça accroche à fond, et on a tellement pas l'habitude de voir les mecs, comme généralement ils sont doublés.
Oui.
Voilà, donc là, on nous montre un petit peu l'envers du décor, et ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant.
Puis au niveau musique, alors j'ai pas mal cherché quand même, parce que on peut pas dire que je sois vraiment enchanté en général par les musiques sur les films de Jackie Chan, c'est pas souvent foufou. Mais j'aime bien celle du Marin des Mers de Chine, parce qu'elle est tellement, mais typique. Du film de Tatane de cette époque, ça fait limite un peu dessin animé aussi, en même temps ça s'emporte et tout, ouais voilà, ça met un peu la banane, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, c'est pas du grand art, mais ça fait le job,
ouais,
c'est rigolo.
Bien.
Allez, je te redonne la main et on va rester en Asie.
Je pense que vous avez reconnu, voilà, vous êtes sur VHS et Canapé, vous êtes sur Scoring, et vous avez reconnu la musique de The Killer, de Jenou, qui nous a récemment régalé sur Prime Video avec Silent Night.
Oula, ah, vache.
Alors, j'ai vu des bonnes critiques, alors je suis sorti là-dedans un peu... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai vu qu'il avait...
Je t'avais envoyé un message pour te dire, si tu l'as pas regardé, perds pas.
J'étais en train de le faire, je crois, je venais de le finir, ou je sais plus, ou je t'ai dit, je l'ai déjà vu, mais ouais, moi j'ai pas été... J'aurais pas pu mettre la musique de fin de Silent Night, mais dans tous les cas, voilà, The Killer, c'était aussi, mon premier John Woo, en tout cas le premier John Woo chinois que je voyais avec donc Chow Yun-fat et plein de canardages. Et c'était mon premier vraiment film d'action avec gun qui venait de Chine. Et ça a été la grosse claquage, je crois que j'ai déjà raconté ici, on l'a peut-être même déjà diffusé. Voilà, c'est vraiment le scoring
qu'on
fait.
Ouais,
ça m'aurait étonné, tu vois, qu'on ait pas diffusé. Enfin, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est diffusé aujourd'hui. C'est une musique que j'aime beaucoup, qui représente, je trouve, plutôt bien le cinéma de John Woo, le côté mélancolique, ultra abusé, appuyé, mais qui te... Il y a un côté lyrique qui m'emporte dans les séquences chantées, où des fois, t'as des montages avec cette musique, où c'est vraiment la fin, en plus, où tu vois, il y a du feu partout, les mecs sont là, ils ont des balles partout, ils sont morts, ils vont crever, tu le sais, c'est hyper dramatique, et avec la main, les mains qui vont se rapprocher pour se toucher, etc. Enfin, c'est vraiment une séquence qui est assez forte et qui m'avait mis une bonne petite claque qui suivait la séquence de l'église, le fameux gunfight de l'église, qui m'avait soufflé, mais complètement soufflé, tellement c'était dingue pour le jeune que j'étais à l'époque qui avait loué cette VHS. Et la musique, c'est une musique de Lowell Low, ouais, je l'adore en fait cette musique. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui soit, ouais, c'est un peu ça passe ou ça casse, mais le côté appuyé me plaît énormément et je trouve que ça passe.
C'est partie du package.
Ouais, c'est partie du package. L'émotion, tu la sens sincère et voilà, chez moi ça match énormément. Et pour cet ultime scoring, ça me fait plaisir de passer The Killer parce que ça fait partie vraiment des films, je l'ai sûrement déjà dit, mais qui ont vraiment marqué ma cinéphilie à l'époque. Parce que,
c'est des pierres angulaires. Hein,
voilà, c'est vraiment les films, tu te les prends dans la gueule quand tu t'y attends pas du tout. Quoi. C'est un peu comme mon premier Jackie Chan, tu découvres, tiens, moi j'avais tellement été abreuvé de Schwarzy, de Steven Seagal, tous les films d'action plus classiques avec des gros guillemets, même si c'était ultra efficace, mais tu découvrais vraiment une façon de filmer l'action, de raconter des histoires qui étaient complètement...
Ça ouvre le champ des possibles, en fait.
C'est tout à fait ça.
Ce genre de film.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et après, j'ai découvert encore plus de choses. C'était un régal, mais voilà, j'apprécie toujours autant d'écouter cette musique et ça me faisait plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Allez, on change de pays et on reste quand même sur un film culte. Et nous voici chez Brian De Palma avec le cultissime Scarface. Et ouais, Scarface, un film que j'ai découvert assez, un peu sur le tard.
Et ben moi aussi, figure-toi.
Quand même, ouais. Je connaissais la réputation. Et c'est vrai que De Palma, j'ai découvert assez tard de toute façon en général. Je crois même que Les Incorruptibles, je les ai vus il n'y a pas si longtemps que ça, quand on regarde. Et ça m'a mis une claque ce film, putain.
Ouais, c'est bien.
C'est carrément bien, quoi. Et tu vois à quel point, tu te dis, ouais, Les Incorruptibles. Je sais pas pourquoi il y a des films comme ça, je vois l'affiche, je sais pas, ça m'embêlait pas plus que ça. Pourtant, t'as un gros casting et tout, enfin, je sais pas. Et je m'étais pris le Blu-ray, le DVD où je l'ai vu en SVOD. Et putain, c'est quand même con de pas avoir vu ce film avant, quoi. Mais encore une fois, voilà, t'es content de. Ça m'a fait la même chose sur Elle est Confidential. Elle est Confidential, pareil, vu sur le tard. Et putain, j'ai surkiffé, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que ce film est bien. Et ouais, la réputation est là, et là, est pas galvaudée du tout. Et en plus, Scarface, t'avais vraiment ce côté. Repris par le rap, tu sais, il y a cette image reprise. C'est vrai que moi, quand j'ai vu le film, je sais que c'était la mise en avant du self-made man, etc. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais en fait, ok, mais vous avez vu comme il finit.
Ouais.
Je veux dire, c'est voilà. Après, je pense qu'ils ont gardé la partie qui les intéressait le plus. Mais puis bon, je peux comprendre parce que l'imagerie, elle est quand même énorme dans le film, quoi. T'as des phrases cultes, t'as des passages cultes dedans. Il est ultra. Ultra iconisé, je veux dire, Tony Montana, je veux dire, c'est clairement, tu comprends que ça a été repris même dans des GTA, que l'ambiance a été reprise un petit peu partout. Enfin, c'est un film important et qui a été massacré à la sortie de ce que j'avais vu. Le film était vulgaire, trop violent, patati patata. Et pareil, donc j'avais pris le DVD à l'époque et je l'ai lancé un coup. Je dis, ouais, putain, quand même, c'est vachement bien. Et la musique. Alors, je préfère l'impasse quand même. J'ai une petite préférence pour l'impasse aussi de Palma que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et la musique de Giorgio Moroder, bah elle claque et elle représente bien cette chute en fait complète du personnage principal. On voit vraiment cette envolée comme ça assez amère. Et je kiffe déjà parce que je suis très client de ce type de musique qui est revenu à la mode grâce à Daft Punk et un petit peu. Mais
En plus, c'est dingue ce truc parce que la synthwave a déringardisé.
Mais complètement.
Les sons des années 80.
Complètement.
C'est assez étonnant en fait. Ouais. Quand tu les revois maintenant, tu aurais pu dire en 1998, oh quand même, ouais, c'est la musique, elle est très marquée d'une époque, etc. Et en fait, quand tu regardes maintenant, ben, ça remodernise quelque sorte le truc.
C'est marrant parce que t'as. Alors nous qui sur VHS avons beaucoup défendu les films des années 80 qui étaient parfois bourrés de synthé. Moi, tu me mettais le combo gagnant sur les films, c'était le synthé, la fumée qui sort des trucs un peu bleutés, machin, et des scènes d'action un peu ringardes. Moi, j'étais au top du top.
Bon, aux frontières de l'aube, quoi.
Ah ouais, aux frontières de l'aube, où il y a pas longtemps, j'ai vu un film de loup-garou, je crois que c'est Peur Bleue.
Peur Bleue, en lumière bleue, ça y va.
Hein, t'as la trace de lumière bleue et de fumée, j'y vois super bien. Et là, je suis allé à Gérardmer et j'ai vu des films aussi, pareil. Avec de la fumée, je dis ouais, c'est bon, emballé, c'est pesé. Film de loup-garou italien ringard, ok, c'est bon, il y a de la fumée, il y a un loup-garou en plastique, c'est bon. Je suis un minimum content, voilà, je suis content d'être là et de l'avoir vu en salle. Mais ouais, et la musique, ouais, Synthwave a réussi à reprendre un petit peu les tics et le côté parfois un peu ringard de certains trucs, mais il y en a certains qui arrivent à moderniser vraiment le système, ce qui rend. Ils arrivent à récupérer un peu l'énergie, la pêche et parfois la bonne humeur un petit peu de certains trucs Synthwave qui étaient assez cool. Et sur la musique,
l'effet pervers, juste, c'est qu'en ayant remis ça un peu à la mode, il y a encore quelques années, tu pouvais trouver des vinyles de l'époque que t'achetais pas bien cher.
Ouais, ça remontait.
C'est fini. Hein.
Voilà, c'est terminé. Ouais,
c'est terminé. Ça,
malheureusement, c'est devenu ultra compliqué pour retrouver des trucs. Et puis même, il y a des repressages qui sont hors de prix et qui n'ont aucun sens.
Ah ouais.
Mais en tout cas, sur Scarface, tu peux clairement. Ça fait vraiment partie des films. En plus, tu ne peux clairement pas les séparer de leur BO. Et que ça soit la musique composée par Moroder ou les musiques qui sont intégrées à la bande son dans les clubs, etc. Push it sur to the limit. T'as vraiment des musiques qui sont complètement mis dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai revu il n'y a pas longtemps Team America. T'as aussi une musique un peu de ce genre-là dedans à un moment.
Tout à fait.
C'est hallucinant, quoi. Donc, c'est un vrai kiff, et forcément j'y ai repensé en faisant la sélection. Je fais la musique de Scarface de mémoire, le générique de fin est vraiment excellent, et je pense qu'il a carrément sa place ici. Et puis même si on parle à Scarface, c'est un peu connu comme le loup blanc, bah ça reste déjà un très bon film, et puis ouais, une OST de malade, quoi.
Carrément.
Alors on va on va se diriger vers du David Lynch, hein, quelque chose que t'aimes bien, David Lynch. Hein, dans les derniers, on en a eu quand même quelques-uns, et bien sûr, sur une série de télé qui est chère à ton cœur.
Bah oui, évidemment, je m'applique à mettre un petit peu de tout, des choses que j'aime vraiment. Et là, avec le générique de fin de Twin Peaks, Fire Walk With Me, le film issu de la série qui est sorti en 92, je voulais illustrer un type de générique de fin que j'apprécie tout particulièrement. Ce sont les génériques qui te laissent en suspension quand le film se termine. Où t'es dans un certain niveau d'ambiance et le générique va le prolonger comme ça, de façon très naturelle. Et à la fin, dans la dernière scène de ce film de Twin Peaks, on a une scène qui est hyper onirique, où il n'y a pas du tout de dialogue, où tout se fait par l'image, où on doit finalement, enfin c'est très cryptique, comme l'intégralité du film, où on doit comprendre ou se donner son explication de la fin, et ça va se terminer sur Laura Palmer en ange, comme ça, qui va monter, et démarre le requiem en C mineur de Luigi Cherubini. Tu vois, ça fait plusieurs fois que j'arrive à mettre du classique, hein, aussi.
Ouais. oui.
Mais qui marche tellement bien. Qui marche tellement bien. Et on reste exactement dans l'état où nous laisse le film. J'aime pas ces génériques où quand les premiers mots arrivent sur l'écran, on a une musique qui a rien à voir avec la tonalité précédente.
Un peu comme du métal dans un slasher lambda, quoi. C'était la mode.
Exactement. Moi, c'est un truc là qui me parle pas du tout, ça. Ça, pour moi, c'est vraiment le café ordinaire. Ça me parle pas. Là, il y a un soin évident qui est apporté. Ce morceau qui a été choisi, c'est pas anodin non plus si c'est un requiem, c'est un morceau qui va grimper comme ça, un petit peu, qui va péter avec les voix à un moment donné. Il y a un sens avec ce qui est montré à l'écran. Un requiem, c'est quand on meurt, hein, donc c'est un passage. Donc ça fonctionne aussi avec ça. Et voilà, je sais que quand j'avais vu le film au cinéma, bah ouais, tu restes dans ton fauteuil, en fait, parce que t'es bien. Parce que tu restes sur ce qu'on a voulu te transmettre. T'as même pas trop compris, d'ailleurs, encore. Tu y réfléchiras le lendemain. Mais par contre, en termes d'état d'esprit, t'es exactement là où il faut.
Ouais, et le générique fait le job. Le film continue un peu. Enfin, il se termine vraiment. C'est-à-dire, ça continue. C'est vraiment le film qui se termine et t'as pas envie de quitter la salle, forcément. T'es encore
c'est
dedans.
Ça. Tu sais, c'est l'inverse. Parce que là, il y a du son. Quand on dit que le silence qui suit du Mozart, c'est encore du Mozart. Et ben là, le générique qui suit le film de David Lynch, c'est encore du David Lynch. Ça continue de fonctionner.
C'est ce que tu veux dire.
Et voilà, il y a des films comme ça, hein, qui réussissent à bien le faire comme ça, à bien maintenir dans l'ambiance où ils ont voulu nous plonger. Et je trouve que celui-ci, il réussit vraiment particulièrement bien, quoi. Allez, je vais continuer. Je voulais quand même avoir mon triple A, mon gros film dans cette sélection, et c'est maintenant qu'il arrive.
Thank you.
Alors oui, parce que j'ai beau vouloir que Disney crève, et bordel que je voudrais qu'il crève tellement j'en peux plus. Des blockbusters hollywoodiens qui veulent me faire la leçon et qu'oublient juste qu'il faut faire un film autour avant de donner une leçon. J'ai lâché l'affaire, hein, ça y est. Mon optimisme est terminé.
Non, hein, là-dessus, je pense qu'on... Faut arrêter d'espérer, je pense que là...
C'est terminé pour moi, là, je crois. Mais par contre, ça n'empêche pas que dans toute l'histoire du cinéma, bah, les gros films, il y a plein de trucs qui sont super cool.
Bien sûr.
Et là, d'autant plus, je voulais parler de ce Star Trek, la version de 2009, parce que dans les émissions qu'on a faites, dans l'émission Impossible, j'ai quand même vraiment dézingué l'ami J.J. Abrams. J'en ai pas vraiment dit du bien, on peut le dire. Par contre, je trouve qu'il a fait un très bon job sur ce Star Trek.
Absolument.
Et en termes de réal, c'est vraiment bon, les images sont belles, il y a un vrai respect de l'œuvre d'origine tout en la modernisant, ce qui n'était pas gagné. Voilà, pour moi, c'était vraiment pas gagné. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce film. Je trouve qu'il est très équilibré aussi dans ce qu'il raconte. Il a juste la petite dose de nostalgie qui va bien pour les Trekkies avec l'entreprise qui passe, mais pas plus. Et c'est exactement la dose qu'il fallait. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Par contre, il y en a un après qui je crois pas avoir déjà dit du mal. C'est monsieur Michael Giacchino. Et là... Et là, mais pardon, quoi. Alors, l'ensemble de la BO de ce film, elle est super. Mais ce générique de fin, je vais être tout à fait honnête, je crois que j'ai versé ma petite larme quand je l'ai vu en salle.
Bon.
Parce que la façon dont il va mixer le thème original qu'on n'a pas du tout entendu du film, on n'a pas entendu le thème original super connu, il arrive au générique de fin, donc... Pour les amateurs de Star Trek, c'est comme un cadeau, c'est une récompense, quoi. L'orchestration, elle est magnifique. Et après le début du thème original, arrive le nouveau thème du Star Trek qui se mêle dedans, comme ça, qui prend la prolongation. Et plus le morceau avance, plus il prend de place pour finalement le remplacer. Mais c'est pas un remplacement « casse-toi, je prends la place ». Ça montre la progression qu'il y a, le lien entre les deux. Putain, réussir même à mettre du sens comme ça dans le générique de fin, finalement à l'image de ce qu'a voulu être fait dans le film, eh ben moi je trouve que c'est du grand art. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Et l'orchestration, elle est magique. T'as l'impression que ces deux thèmes ont été vraiment écrits en même temps, en fait, qu'ils ont toujours existé ensemble. Ben non, c'est monsieur Giacchino qui, encore une fois, montre que lui, il est capable de prendre une vieille recette et de l'amener autre part pour des résultats assez magnifiques.
Je suis sûr que t'étais au moment où la fin arrivait à dire c'était pas mal, c'est dommage, il manquait la musique de Star Trek. Et là le truc commence, les bâtards, ils m'ont eu.
exactement. Et tu vois, j'avais pensé à un moment donné, alors j'ai pas vérifié si c'était réellement le générique de fin, mais à faire ça pour le Halloween qu'on a eu épouvantable là, parce que finalement le meilleur moment du film c'est quand il y a eu la musique d'Halloween.
Je crois que c'est la musique d'Halloween dès le début avec la citrouille, tout ça.
C'est le meilleur, ils ont mis le meilleur passage.
Ah bah, de son, la meilleure chose pour moi c'est la musique. Carpenter, voilà, au moins il a fait la musique. Mais putain, quel calvaire. Bon, on va pas parler de ça.
Ouais, voilà, pas parler des...
On est pas là pour se merveiller.
Non, mais c'est vrai. Alors du coup, on va rester dans les trucs sympas et on va passer à ta sélection jeux vide ciné. Démerdez-vous.
Moi, démerdez-vous avec ça.
Too far.
Ouais, c'est un peu la feinte parce que j'avais déjà diffusé du Silent Hill dans Scoring et on n'a jamais parlé du film, en fait, Silent Hill. Que ce soit dans une émission classique, si je dis pas de bêtises, et dans Scoring, justement, le film de Christophe Gans.
On a parlé dans la Beatsbox, mais ça nous rajeunit
pas. Ah non, ça nous rajeunit carrément pas, quoi. C'était aussi une autre histoire, un autre chapitre de notre vie, de notre existence podcastique. Et donc, le Silent Hill de Christophe Gans profitait de musique de Akira Yamaoka, dont ce générique de fin qui était aussi tiré des jeux vidéo. On se rattrape, voilà, on se mord la queue et on revient.
C'était dans le troisième, non
je crois que c'était dans le troisième, celui-ci, ouais. Tout à fait. Et moi, j'adore cette musique. J'adore les musiques des Silent Hill et j'adore les musiques chantées des Silent Hill. C'est vraiment des morceaux, des purs morceaux rock qui passent très très bien et qui ne dénotent absolument pas des bandes-sons des différents Silent Hill. Il y a même parfois certains Silent Hill un peu pouraves qui profitent toujours de l'ambiance, je pense notamment à Homecoming qui était sauvé dans certains passages grâce à la musique d'Akira Yamaoka qui profitait de quelques musiques vraiment très sympas chantées aussi. Donc rien que pour ça, voilà, j'étais quand même content de les faire, même si c'était pas fameux. Et concernant le film Silent Hill de Gantz, c'est un film qui... J'ai envie de garder les bons côtés, c'est-à-dire que...
Moi je l'aime bien.
Voilà, c'est un film que j'aime bien, que j'étais content d'avoir vu en salle, que j'ai revu de temps en temps, et qui, bien sûr, est très mal équilibré, surtout dans les passages avec la partie humaine,
hors de la ville.
Qui semble-t-il a été rajouté parce que voilà, les gens avaient peur qu'on comprenne pas, enfin les producteurs avaient peur qu'on comprenne pas tout, mais bon, moi ça m'a pas gâché mon plaisir parce qu'il y avait quand même une certaine radicalité qui était pas forcément évidente et je m'attendais pas justement à voir certains thèmes, tout ce qui était agression, viol, etc. C'est quand même assez particulier, hein,
Visuel, c'est très réussi aussi.
Ouais, c'est sale, ça respecte et ça invente même, ça a même été repris dans les films, le système de transformation de la ville a été repris dans certains Silent Hill, donc il y a des choses qui ont été ajoutées. Les personnages utilisés sont plutôt bien vus, notamment Pyramid Head, alors que dans la suite, on en fait un forain complètement gogol sur un manège. Je dis ok, super. Donc voilà, Christophe Gans, il maîtrise le sujet, il aime le truc, et malgré les maladresses, voilà, Silent Hill, l'essentiel de Silent Hill est là. Et donc la musique, et ça faisait plaisir, en tout cas pour le fan que j'étais, de voir ce film-là qui respectait la franchise, qui était un vrai film de cinéma, qui apportait des choses. Et voilà, qui n'hésitait pas à vraiment interpréter et adapter Silent Hill pour le grand écran, quoi.
Et je voudrais juste dire un truc, c'est par rapport à ce que tu disais sur les musiques rock qui collent bien avec Silent Hill, moi je trouve que ça va même plus loin que ça, parce que le fait que ce soit toujours la même chanteuse, finalement, ça rattache carrément, enfin ça fait partie de Silent Hill.
Ouais, complètement.
Là aussi, c'est un peu comme un package en fait.
Ouais.
Je trouve ça malin d'avoir gardé finalement la même interprète. On est sur les mêmes types de tonalités, surtout sur les lignes de fond qui sont assez proches. Ce qui fait que je sais même pas si ça marchait réellement au premier, mais c'est le genre de truc qu'on te colle à l'image finalement de Silent Hill dans sa globalité et ça devient assez naturel.
Ce qui est marrant avec Silent Hill en fait, c'est que tu pourrais presque raccrocher ça ou rapprocher ça à une anthologie de cinéma ou en série, tu sais, où chaque épisode est différent et puis on est presque. Bon, après, ça a été fait par la Silent Team jusqu'au 3 justement. Après, tu peux réinterpréter. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, le Silent Hill Downpour. Où on réinterprète une mythologie, voilà. Donc Silent Hill, il y a vraiment matière, c'est pour ça que ça pourrait être carrément une excellente série télé en fait, Silent Hill, où chaque saison pourrait correspondre à un personnage qui tombe dans Silent Hill parce que on sait que Silent Hill est lié à la psyché du personnage et à ce qu'il a à se faire pardonner, etc. Donc c'est hyper intéressant et ça pourrait vraiment donner quelque chose de cool. Je pense vraiment que ça serait peut-être même le meilleur format. Enfin, on verra ce que va refaire Christophe Gans avec son prochain film Silent Hill qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais en tout cas, ouais, je pense que Silent Hill pourrait donner une excellente série télé.
Un potentiel.
Voilà, donc pourquoi pas, on verra à l'avenir, parce que Konami sait pas trop quoi en foutre de Silent Hill. Voilà, un petit peu de tout à boire et à manger. Mais bon, dans tous les cas, on s'est fait plaisir et on a écouté donc du Akira Yamaoka, et ça, c'est plutôt chouette.
Ouais.
Alors, je garde la main, rien à voir, mais on reste au cinéma et on va aller du côté de... comment il s'appelle ce monsieur qui a fait Alien, mon Dieu ?
Ridley Scott.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter une musique du film Cartel, qui est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps pour le podcast Vidéo Club, qui est en pause actuellement, mais qui reviendra, je pense, dans quelques temps. Et donc, on nous l'avait imposé, et j'étais content de le voir, parce que c'est un film qui ne fait pas l'unanimité, même loin s'en faut, et qui, comme beaucoup de films de Ridley Scott, profitait d'une version Director's Cut qui semble-t-il améliorer le film par rapport à la version sale, comme il fait tout le temps. Et je déteste ça, parce que ça n'a aucun sens. Mais bref, j'ai vu la version Director's Cut et force est de constater que, au moins, je ne sais pas ce que vaut la version sale, mais la version Director's Cut était, ma foi, plutôt intéressante et que c'est un film plutôt intéressant techniquement par rapport à ce qu'est capable de faire Scott parfois, pas foufou. Je ne suis pas un méga fan du monsieur, hein, même sur tout le respect que j'ai pour, rien que pour ce qu'il a fait en début de carrière. On va dire que c'est un peu en montagne russe hein, ce qu'il fait le monsieur ouais. Quoi. Mais bon, il est vieux, il s'amuse, il fait des films, donc voilà, il n'y a pas de mal à ça. En tout cas, Cartel, avec son casting de ouf, profite aussi d'une musique de Daniel Pemberton qui est un peu avec un autre compositeur dont Beer McCreary et aussi limite Michael Giacchino, même s'il est déjà un petit peu plus vieux, font partie de mes chouchous actuels et je surveille vraiment généralement ce qu'il propose dans les compositions, parfois même dans des films peu respectables, notamment Godzilla 2 qui profite d'une bande son de ouf pour un film qui est ce qu'il est. Voilà.
C'est vrai. C'est vrai que la BO elle est super.
Ah, la BO elle est incroyable. Ouais. Et là, j'ai mon fils de 4 ans, hein, honte à moi peut-être, mais qui surkiffe Godzilla et qui regarde Kong versus Godzilla parce qu'il y a deux grosses bêtes qui défoncent tout. Donc à 4 ans, on excuse.
On a tous eu 4 ans.
Voilà, ça va. Et puis bon, c'est clairement les jouets qui font tout casser. Regarde papa, il y a le robot, il casse tout, c'est super. Ouais, regarde, il arrache la tête du. Bon, j'arrête là.
C'était ça, je t'aurai un Rampage.
C'est ça, je vais franchement Rampage. Je pense qu'il va surkiffer, mais ça me fait kiffer parce que ouais, il adore ces trucs-là. Les films de SF avec des gros monstres, hein, voilà, il surkiffe. Et donc voilà, on sait, il y a des musiques grandioses pour des films pas foufou, mais là dans le cas là, voilà, en tout cas Cartel, c'est intéressant à regarder. Mais tout ça pour dire que ouais, Daniel Pemberton. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on avait déjà diffusé Le Roi Arthur, et c'est vraiment un compositeur que je trouve génial. Et globalement, il fait aussi des musiques. Je crois qu'il a aussi fait des musiques de jeux vidéo, il fait aussi des trucs de documentaires. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez actif. Il a fait vraiment plein de choses, des films Netflix, donc j'ai même pas vu la moindre image, mais les musiques sont vraiment très très cool. Donc moi je vous conseille vraiment de suivre ce compositeur, parce que franchement ça le fait généralement, et même si vous n'êtes pas intéressé par les films, posez une oreille rien que sur Le Roi Arthur, franchement la BO est assez cool. Et Cartel, faites-vous une idée, parce que je sais qu'il a très mauvaise réputation, mais si vous arrivez à trouver la version Director's Cut, alors, qui n'est pas évidente à trouver maintenant je crois, je pense que vous pourrez passer un bon moment, parce que le film est vraiment très très noir et plutôt bien interprété. Et je le trouve assez bien écrit. Alors, pas forcément filmé de la meilleure des manières, des fois, mais dans tous les cas, c'est un film qui est plutôt bien écrit et qui profite vraiment de belles performances d'acteurs. Nous allons aller du côté de la série télé avec un petit dauphin.
On l'appelle le dauphin. Dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poil blanc. Jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. On l'appelle le dauphin, il est pur comme la neige. Il a deux petits copains qu'il aime mais qu'il protège. Il traque, il boute, il bouffonne. Et il défend jusqu'au bout un peu du rêve d'enfant qui vit en chacun de nous. Il a le poil blanc comme l'hermine.
Et oui, tradition scoring, j'aime bien essayer de surprendre une fois de temps en temps, donc je ne pense pas qu'on aurait parié en voyant le sujet qu'on allait entendre la musique d'Oum le Dauphin. dessin animé de 1971. Mais bon, déjà, c'est mon copain Cosma qui a fait la musique.
Hey, ça aide.
Donc, c'est un bon point. Et c'est chanté par Michel Legrand. Alors, c'est vieux, hein, 71, donc je me doute que ça va pas parler à tout le monde. Mais figurez-vous qu'avant de faire de la pub pour Galak, Oum le Dauphin, c'était un vrai dessin animé. Eh oui. Et je pense que c'est un vrai dessin animé qui était plutôt mal animé, hein. On était sur le... On n'est pas sur le haut du panier. Et j'ajouterais même que je pense pas que c'était très intéressant. Cela étant, je disais que je parlais de souvenirs, et ce dessin animé, moi j'aimais beaucoup le regarder donc quand j'étais tout petit,
bah oui,
à cause de sa musique. Et pas tellement pour celle que j'ai diffusée, celle qui m'intéresse le plus, mais j'ai pas trouvé la version, c'était le générique de fin, qui était sur le même air, mais qui faisait « On ne connaît pas la fin des histoires d'Oum le Dauphin et on reste sur sa fin quand on entend ce refrain. » Et ce truc me mettait une espèce de blues assez étrange.
Ouais.
Je trouvais ça super joli. De toute façon, je trouve qu'elle est vraiment belle, la mélodie de cette chanson. Mais je trouvais ça très joli, très doux. Ça marchait sur moi d'un point de vue émotif que je pouvais pas analyser parce que je devais avoir 5 ans, quoi, un truc comme ça. Mais je ne ratais pas Oum le Dauphin à cause de ça, quoi. Donc je me disais, oh, allez, va, peut-être que ça va parler à 2-3 vieux qui écoutent l'émission. Et même si c'est pas le cas, je trouve que c'est une jolie chanson. Parce que l'air de rien, dans les années 70, et allez, va, jusqu'à peut-être milieu 80, mais... en tirant un gros trait, les orchestrations sur les génériques des séries et des dessins animés, c'était quelque chose, quoi. Après cette petite parenthèse de quand j'étais tout petit, pour la suite, j'ai un petit peu grandi, et je vais aller du côté de, quoi, le drame, la comédie, enfin, le genre de film pas du tout VHS et canapé, en vrai. Desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Peut-être que vous l'avez reconnu, on vient d'écouter le générique de Bagdad Café, film de 1987 et chanté par Jevetta Steel, Calling You. Alors je vous donne le titre, mais vous l'avez compris normalement, hein, elle le répète quand même un petit peu. Et Bagdad Café, c'est un film assez intéressant qui est donc sorti en 87 et à une époque où déjà j'allais voir tout et n'importe quoi. Et c'est rétrospectivement que je me rends compte que même si ma spécialité, entre guillemets, c'est le fantastique, l'horreur, bah j'allais voir de tout, en fait. Et ce film, je suis allé le voir suite, je crois, à un conseil de Starfix, ou peut-être même au pif, j'en sais rien, parce que je faisais ça également. Et ça raconte un truc, mais qui a tellement mais rien à voir avec normalement ce qui me fait vibrer, hein. C'est l'histoire de deux femmes qui ne se ressemblent pas du tout, puis qui deviennent des amies inséparables. Ça se passe au milieu de nulle part, donc une belle histoire d'amitié. Gna gna ni, gna gna gna, qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller regarder ça alors que j'ai 14 ans, franchement, on peut se poser la question, mais sauf que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai découvert des acteurs que à cet âge-là, je ne connaissais pas encore, mais ça a matché très très fort avec Cici Hatchpounder, cette actrice, que j'adore, je saurais pas dire pourquoi, j'adore sa tronche, dans The Wire, elle est géniale aussi. Dès que je la croise quelque part, je suis content. Voilà. Elle fait partie de ma shortlist des gens où quand je les vois, de toute façon, je suis content. J'y peux rien, c'est comme ça.
Et dans The Shield, aussi, je crois.
Oui, c'est ça, dans The Shield d'ailleurs. J'ai dit The Wire, je me suis trompé, c'était The Shield. Où elle joue Claudette.
C'est
ça. Et puis Jack Palance aussi. Je savais pas que c'était Jack Palance, mais il a une sacrée tronche, quoi. Et en fait, quand tu découvres cette tête-là pour la première fois, tu dis, oh, putain, il est bizarre ce mec-là, c'est quand même assez étrange. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance dans le film qui marchait, je trouve, vraiment très bien, en fait. Et puis, il y a cette chanson. Et cette chanson, à 14 ans, donc c'était pas vraiment fait pour à nouveau, allez savoir pourquoi ça a matché grave. Tant et si bien que j'ai utilisé mon argent de poche pour me payer le 45 tours que j'ai toujours et que j'ai poncé, quoi. Voilà, je trouve que c'est je trouve ça super joli, en fait. Je trouve que ça marche super bien, ça se chante très bien sous la douche aussi. Enfin, très bien. Ça se chante mal,
parce
mais très bien.
C'est dur à chanter, enfin, en tout cas, c'est un rythme.
Oui, c'est ça.
Un rythme particulier et tout. Je te disais en off, en plus que moi, j'ai un rapport particulier avec cette musique, parce que quand j'ai découvert assez jeune, j'avais moins de 14 ans, je pense, dans une compile peut-être avec les thèmes de cinéma, tu vois, entre la musique de Top Gun et je sais pas quoi, tu vois, t'avais cette musique-là et qui me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas pour moi, je suis un gros bourrin, je veux pas écouter ça. » Et c'est vrai que maintenant, c'est une musique que j'adore, donc ouais, c'est particulier, mais c'est vrai que la musique est assez, je dirais pas étonnante, mais quand même, il y en a pas deux pareils, quoi. Elle est vraiment, vraiment originale, je trouve, cette musique.
Bon allez, on va arrêter avec le larmoyant, hein, ça va 2 minutes. Hein. On va retourner à la fois du côté jeu vidéo et du côté bourrin, mais pas que.
Pas que. Sous le tank et je m'attaque à Vulcan Raven et à Sniper Wolf. Je suis
sur ma tête.
Je suis Solid Snake dans Metal Gear Solid, un jeu que j'ai découvert dans ma prime jeunesse. Et j'avais, moi, 14 ans quand je jouais à Metal Gear. Je l'attendais comme un ouf. Et je l'ai fini plein de fois, ce qui est rare pour moi. Déjà que je finisse des jeux, mais en plus plein de fois, c'est quand même assez peu courant. Voilà, j'ai le costume, le smoking et tout. Un très très grand jeu, pour moi en tout cas, de l'époque PlayStation, et que dire, qui n'a déjà été dit sur Metal Gear Solid. Moi c'est un jeu que...
Snake.
Ouais, c'est vraiment le jeu qui, même si j'y rejouerai plus, je pense, parce que ça a vieilli, même s'il y a eu un remake, etc., que je dois vendre malheureusement sur eBay actuellement, ça me fend le cœur. C'est un jeu qui m'a profondément marqué, qui a aussi, je parlais tout à l'heure, qui marque pour The Killer ma cinéphilie. Moi, ça m'a vraiment marqué ma vidéologie. Enfin bref, j'ai ma passion pour le jeu vidéo. Et le personnage, je connaissais pas du tout le Kojima, etc. Donc vraiment, gros gros kiff. Et la musique globale, en plus on a appris que le salaud qui avait fait le thème avait plagié le thème, enfoiré. T'as été grillé, tu t'es fait niquer. Après le thème a disparu à cause de toi, bravo quoi. Mais bref, c'est une musique que j'aime beaucoup. C'est en tout cas cette musique de fin qui n'a rien à voir avec celle, avec le thème principal, mais qui est un peu comme... je pense que c'est pour ça que tu l'as rapproché de Bagdad Café. Fait un petit peu penser... donne aussi un spleen particulier, en fait, quand tu termines le jeu. Tu termines une sorte de blockbuster d'action, d'espionnage, et tu termines avec The Best is Yet To Come, qui est une musique... quand j'ai terminé le jeu, avec cette voix qui commence... Tu vois, mais c'est ouf. Et ça fait partie aussi des musiques que je rapproche de certaines musiques de Tenchu, qui, avec les voix, enfin, c'est vraiment des musiques qui m'ont marqué profondément. Des musiques de jeux vidéo qui m'ont marqué, que je réécoute régulièrement, et je surkiffe cette musique. Et donc maintenant, je viens de comprendre pourquoi tu l'avais placée après Bagdad Café.
Ah, mais c'est. Ah, mais t'avais pas réalisé que depuis le début, les scorings, c'est assez étudié, l'ordre des morceaux.
Ah, si, mais comme on a galéré à le mettre en place celui-là, j'avais oublié que tu l'avais mis juste en dessous de Bagdad Café, et non, je n'ai pas découvert la dernière émission que tu faisais pas des lancers de dés.
Parce que tu noteras qu'avec le suivant, ça marche pas trop mal aussi.
C'est vrai. Et d'ailleurs, le suivant, qui est effectivement, encore une fois, un mix entre le bourrinage et la douceur, pour terminer.
On est bien là.
Là, on est,
alors, on est bien.
Là, c'est VHS.
On est très bien.
Et là, c'est, on a fait du steak haché avec les méchants, hein, avec les violeurs d'enfants. On leur a ouvert le bide et on a fait, avec notre grosse gatling géante, on a réduit en pièces la plupart des opposants qui se baladent dans les rizières pleines de mines. C'était donc John Rambo, réinterprété par Brian Tyler. Et écoute, j'ai pas envie de dire d'ânerie, mais c'est un peu comme pour toi avec Star Trek. Je crois que le thème de Rambo n'arrive que là. J'ai vraiment pas
je me rappelle plus dans le film ouais. Que j'ai eu les poils mais
ah ouais parce que je en plus on a un peu la même fin que le premier hein, où il descend là ouais. On le voit marcher au loin et c'est vrai que c'est la musique je crois que le thème de Rambo ne revient que par là et ce que j'aime bien et vraiment ce qu'a bien fait Brian Tyler qui est aussi un compositeur qu'on a pas mal défendu dans Scoring et bah c'est qu'il a réussi à reprendre ce qu'avait fait la base de Jerry Goldsmith. Et il l'a vraiment un peu modernisé en apportant justement des touches un petit peu liées au décor de ce film-là. Et j'ai surkiffé la musique, quoi. Ça fait partie des thèmes que je me mets dans des compiles assez régulièrement. C'est rigolo, t'as pas un poster de Rambo en plus derrière toi, là ? Je crois que c'est un...
Oh non,
non
pas... C'est...
Je crois que c'était Rambo de loin, non, rien à voir, je crois juste une jungle et un mec... Non, il y en a...
Ah,
l'autre à côté, par Rick et Morty, le vert.
Ah, c'est un vieux truc, c'était un jeu fable abandonné.
Ça. Ah oui, donc c'est absolument rien à voir.
Aucun rapport.
Et ouais, donc la musique de Rambo, déjà le film.
Le film, c'est déjà une belle claquasse.
Le film,
il y a un truc que j'adore aussi, il y a un truc que je trouve génial dans cette musique, c'est que, et ce qui ressemble assez au contenu du film, donc là aussi j'aime bien quand ça fait ça, c'est qu'on a les deux parties du thème de Rambo qui sont pas du tout jouées sur la même tonalité. Ouais. On a quelque chose de très doux avec le ton. Mais par contre, quand on passe dans la phase guerrière, il a accentué le côté des percussions. Ouais. Là. C'est vraiment les deux phases ouais. qu'on a dans le film, avec le mec qui veut qu'on lui foute la paix. Et comme tu dis, quand il faut, on sort la gatling.
T'as vraiment une double couche dans ce thème final, ouais, parce qu'en plus normalement ça aurait dû être le dernier, mais ils ont décidé de remettre le couvert.
Les cons.
Pour gâcher un petit peu le plaisir, mais c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup et qui la fin de John Rambo, c'était un retour inespéré et on avait une conclusion qui était quand même assez cool, assez badass, mais qui finissait un peu comme le personnage principal. Voilà, moi j'ai toujours cette image de lui qui est face à tous les blessés en se tenant l'épaule blessé et qui semble dire putain tout ça pour ça quoi.
C'est ça.
Et t'as la musique après qui démarre sur le générique de fin. Donc
il rentre chez lui en plus,
ouais,
c'était
ouais.
La fin parfaite. Quoi.
C'était vraiment très très bien. Et c'est bon, dommage, bon, même s'il y a des trucs que j'aime bien dans la suite. Mais voilà, je trouve que cette musique conclut parfaitement le film et le thème est vraiment très cool. Allez, je redonne la parole à Rome. Et on va dans les années 70, fin 70, encore une fois, sur un film culte.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath. Life's a piece of shit. shit when you look at it.
Alors j'avais déjà passé un morceau hein, de La Vie de Brian, mais j'avais pris l'autre morceau très connu, celui qui a la mode James Bond pour dire My Name is Brian. Mais pour le générique de fin, c'est ce qu'on vient d'écouter, hein, Always Look the Life on the Bright Side. Morceau que j'adore, qui conclut un film que j'adore. Je voulais mettre ce film-là parce que c'est aussi un film qui me ressemble, qui aime bien une catégorie de cinéma qui moi me parle, quand on met un petit peu de poil à gratter, quand on est un petit peu sale gosse, quand on ose un petit peu. Et La Vie de Brian, quand c'est sorti en 79, ça osait, ça parlait de la, c'est une question religieuse, ça s'en moquait, ce qui a toujours un écho assez fou à une époque où aujourd'hui on tue pour des histoires de religion. L'équivalent aujourd'hui de La Vie de Brian, ce serait Mahomet, la comédie musicale. Et ça ne pourrait pas exister aujourd'hui. Voilà, c'est pas possible. Et j'aime bien la liberté, j'aime bien quand on parle de tout. Donc ce film, moi, il me parle. En plus, les Monty Python, ça me fait marrer, de toute façon. Le côté complètement absurde et décalé, voilà encore quelque chose qui me parle énormément. Et je trouve que cette fin, elle est absolument magnifique et elle résume un petit peu tout avec des crucifiés qui sont en train de cuire au soleil et qui se disent qu'il faut toujours regarder la vie du bon côté. Voilà, moi ça c'est de l'humour qui me parle. C'est de l'humour qui me parle. En plus, je voulais le mettre pour une autre raison. C'est le moment où c'est le moment départ. Et c'est cette chanson que je voudrais prendre pour l'illustrer. Pour la fin de l'aventure VHS et canapé, en ce qui me concerne, quelque chose que j'ai décidé il y a déjà un certain nombre de mois, et que j'ai annoncé à l'équipe. Et pourquoi je le prends par rapport à ça ? Parce que c'est un peu ce genre de réflexion qui m'a amené à prendre cette décision de regarder la vie du bon côté. En dehors du cinéma, il y a des tas d'autres choses hein, qui m'intéressent, la sociologie, la géopolitique, la rhétorique, des tas de trucs. Et je suis un peu arrivé à la conclusion que on avait les pieds dans le purin, mais assez profond, et mon optimisme, j'en ai plus beaucoup. Et à un moment donné, ça finit par un petit peu jouer sur le moral, et je me suis dit, il faut regarder comment on fait pour regarder la vie du bon côté. Et l'autre facteur déterminant, c'est que j'ai 50 ans. On s'est assez foutu de ma gueule avec ça, hein, dans l'émission, hein, le vieux, le patriarche, etc. Mais c'est pas faux. Quand on a 50 piges, il n'y a plus tant d'années que ça, avec le niveau d'énergie nécessaire pour se bouger, pour être assez lucide aussi. Et donc je me suis dit, il faut qu'on regarde ce qu'il faut faire pour regarder la vie du bon côté, pour ce qui est bon pour moi, pour ce qui est bon sur ma famille. Et ça m'a obligé un peu à revoir mes priorités et à me concentrer sur tout autre sujet, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proche de comment on va vivre, de ce qui va se passer pour nous dans le futur. Et on peut pas tout faire en même temps. Voilà. Et on peut pas tout faire en même temps. Et il y a un moment donné, il faut faire des choix. Alors, c'est pas que j'avais plus rien à raconter, j'ai toujours des tas de trucs à raconter, de toute façon, voilà. Mais plutôt que de se dire continuons et en faisant les choses à moitié, sans être aussi concentré que d'habitude, parce que préparer un podcast, c'est long. C'est beaucoup de boulot en fait, c'est beaucoup d'applications, même si c'est présenté comme un loisir, moi j'ai toujours pris ça d'une façon entre guillemets assez pro. Oui. Donc c'est se documenter, se préparer, réfléchir à ce qu'on va dire, structurer, c'est un plaisir mais c'est aussi du temps. Et en étant lucide, si ce temps il n'est plus disponible, je préférais laisser la place. Laisser un petit peu, en plus comme je suis très bavard, j'en prends beaucoup de la place. Je dis écartons-nous un petit peu. On a d'autres gens qui sont aussi très très bien et peut-être qu'ils vont la prendre cette place et qu'ils vont faire des trucs super. Mais c'était juste plus possible pour moi de continuer, de le faire dans de bonnes conditions. Donc y a un petit peu de tristesse parce que j'ai beaucoup aimé faire tout ça, mais à un moment donné c'est aussi une espèce de contrat moral avec l'auditeur, c'est faut présenter quelque chose qui est vraiment bon, être à un bon niveau, donner le meilleur de soi-même, et c'était plus possible. Donc voilà pourquoi vous m'entendrez plus sur les antennes de VHS et canapé, C'est pas que je vous aime pas, je vous aime bien en fait. Hein. Ceux qui ont la gentillesse d'avoir apprécié ma contribution, je vous en remercie vraiment. Et écoutez aussi ce que font les autres. Hein. Faut regarder la vie du bon côté toujours. Et il y aura probablement également des trucs absolument super. Voilà ce que je voulais dire sur cet ultime scoring en ce qui me concerne.
C'était un plaisir d'enregistrer aussi longtemps avec toi. Ça fait vraiment longtemps qu'on enregistre ensemble.
Nous, ça fait longtemps, ouais.
Ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on enregistre ensemble. Et ouais, ça fait quelque chose. Moi, je rajouterai une petite couche sur la dernière musique. Parce que voilà, ça
tu mérites. Qu'elle a exprès pour.
Ah ouais, c'est fait exprès. Mais vraiment, ouais, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Ça a toujours été... même si on n'était pas d'accord, argumenté, cordial, intéressant, drôle, on s'est souvent fendu la gueule en faisant
Exactement.
Les émissions. On s'est vraiment toujours amusé, même quand on décidait des fois des sujets, quand c'était pas marrant. On a eu des moments pas marrants et on a quand même, c'était un petit peu notre bouée de sauvetage. Enfin, en tout cas, moi, parfois, c'était un petit peu la bouée
d'oxygène.
De sauvetage dans certains moments et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et chaque scoring était vécu de la meilleure des façons, entre la préparation, ouais. entre tes coups de pied au cul pour que je me dépêche. Voilà, c'était.
C'est mon format un peu chouchou, moi,
ouais,
scoring.
Ouais,
J'ai toujours adoré faire ça.
Ouais. Donc voilà, ouais. Cette dernière. En tout cas, merci. Je te dis merci. Tu dis au revoir. Moi, je te dis merci. Parce que c'était vraiment, vraiment mortel. Et je pense que tu vas énormément manquer aux auditeurs. On a déjà eu des marques d'affection, de très, très nombreuses marques d'affection sur les réseaux. Et j'en rajoute une couche parce que tu es quelqu'un de bien. Et tu pars, je pense, pour les bonnes raisons. Et tu pars la tête haute. Voilà,
oh,
c'est bien.
Ah, c'est très gentil. On se remercie à la toute fin au générique.
C'était vraiment très, très cool.
Et je vais garder la main.
Oh, tout ça pour ça, voilà, le
tout
gars.
Ça pour ça, ouais, ouais. Oui, je sais, je l'ai mis au milieu, mais ça collait bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça reste un scoring, donc je mets les choses de façon logique, ordonnée, tout ça, quoi. Je garde la main, là, pour l'avant-dernière sélection, et donc ma dernière sélection. J'ai hésité à le mettre en ouverture avec le Lego, j'avoue. C'était un petit peu en balance. Mais je me suis dit, ah, non. Pour ma dernière sélection, on va mettre un truc qui a vraiment la patate. Un truc qui est rigolo, un truc qui fout la banane. Allez, c'est parti.
Heads up! Heads up! Here's another one, and another one. Geek, geek. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back! You don't know me like that. Get back! You don't know me like that. Geek, geek. Woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back. You don't know me like that. Get back, you don't know me like that. So come on, don't get swung on. It's the knick-knack, paddywhack, still riding Cadillacs. Family off the streets, made my homies put the baggies back. Still stacking plaques, still action-packed. And don't, I keep it flipping like acrobats. That's why I pack them. That'll crack a back, cause on my waist is more heat than the Shaq attack. But I ain't speaking about bowling, just thinking about brawling till y'all start bawling. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on, or knock off your block, get dropped and have your face flown. Cause I'll prove it, scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that. Geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that.
I saw. I hit him right dead in the jaw.
In the jaw.
I came. I saw.
Bon, quand on parle de bien finir un film, là, je crois que ça se pose là. On est sur Tonnerre sous les tropiques de mon grand copain, Ben Stiller. Je rappelle que je suis une saucisse à Stiller. Dès qu'il y a Ben Stiller, je suis content, et pourtant, il en a fait de la merde. Mais je suis quand même content.
T'es content quand il est là, voilà. C'est vrai.
Voilà, il fait, lui aussi, il est dans ma liste des gens où je suis content, c'est comme ça. Et ce film, c'est pour moi, c'est une petite perle. Le concept est absolument génial, des acteurs qui se croient dans une télé-réalité et qui en fait sont au milieu d'une vraie guerre, Il y a des gags qui sont atomiques. Les personnages sont plus loufoques les uns que les autres. C'est complètement hallucinant. Je vais même jusqu'à dire que pour moi, c'est le rôle majeur de Robert Downey Jr. Je trouve qu'il est délirant dans ce film-là. Et puis, Tom Cruise.
Allez, Tom Cruise, ouais.
Tom Cruise grimé.
Puis je veux pas dire dannerie, mais je crois que vraiment qu'il, moi j'étais pas au courant, je crois qu'il était dedans, ils avaient réussi à garder un peu le mystère. Et
je te le confirme, hein, parce que quand tu découvres, moi j'avais pas reconnu au début.
Ouais, c'est ouf.
Quand tu découvres que c'est Tom Cruise, c'est oh, putain, grimé en vieux producteur dégueulasse avec de la bedaine, avec une calvitie, des gros chaînes, un cigare, c'est vraiment le mec que t'imagines un peu, tu sais, qui sue un peu.
Ah ouais.
C'est le gars qui, normalement, il sort dans une affaire MeToo, quoi.
Enfin, il est complètement, oui. C'est... Ça, c'est clair. Ouais.
C'est vraiment le goré, quoi.
Ouais.
Et on s'est bien marré pendant le film, on est vraiment content de ce qu'on a vu. Et là arrive le générique, on a ce morceau de Ludacris, là, Get Back, voilà, un morceau de rap comme ça qui a bien la pêche. Et là, on a Tom Cruise, en producteur dégueulasse, qui se met à danser, qui bouge son cul, qui donne des fessées dans le vide, qui fait du air karaté, et ça entrecoupé des scènes d'explosion du film avec des mannequins qui volent. Mais pour moi, c'est une espèce de vision du bonheur, ça.
Ouais.
C'est 3 minutes de perfection. On sent que Cruise, il s'amuse, hein, faut être clair.
Ouais.
Il reprendra même le rôle pour une cérémonie des MTV Awards. Ah, qui présentera comme j'ai ça.
Fait. Et oui,
avec Gillo, figure-toi.
Oh, putain, ouais, d'accord.
Et ben ouais. Hein. Et voilà, et moi c'était vraiment un vrai petit moment de bonheur de cinéma. Alors déjà, Tonnerre sous les tropiques, c'est un film que j'ai vu en salle sans vraiment savoir de quoi il était question. Je suis juste allé le voir parce que j'ai vu qu'il y avait Ben Stiller, mais je trouve que l'affiche était vraiment moche. J'avais pas envie d'y aller, mais je me suis dit, bon, il y a Ben Stiller, allez, va. J'y vais, j'ai adoré le film, et un film qui finit comme ça, je pense que j'ai été de bonne humeur pour une bonne semaine. Moi, ce genre de truc, ce petit délire, c'est quand je parlais tout à l'heure de la petite Madeleine là, que t'as avec le café, là c'est le café gourmand.
Putain, ah ouais, là, il est bon. Ouais, non, mais vraiment, c'est le truc. En plus, ouais, bah déjà, on s'attendait pas à ce qu'il y ait Tom Cruise dedans. Et ce festival final, ce bouquet final, c'est la classe. Là, tu quittes pas la salle du tout.
Bah non, bah non.
Oh, mais qu'est-ce qu'il nous balance à la gueule, et c'est tellement drôle et tellement bien foutu. Ah non, c'est la classe.
Voilà, donc je trouvais que c'était un peu dans le top des génériques. Alors, avant de te passer la main, je note que dans ma sélection, il y a des grands absents qui sont les films d'horreur, en fait.
Oui.
C'est ce qui est assez étrange, vu mes goûts habituels. Oui. Mais t'as un peu donné la raison tout à l'heure, c'est que... Déjà, on a diffusé pas mal de choses que j'aimais beaucoup. Et l'autre aspect, c'est que les génériques de fin dans les films d'horreur, eh ben, c'est pas fou. On a souvent des ruptures qui sont juste brutales avec la chanson à la mode du moment. Voilà, ça m'a pas enthousiasmé.
Écoute, j'ai repensé à ça il y a, ben, y a pas longtemps, parce que c'est quand j'ai vu Saut 20 millions, je sais plus c'est quoi le dernier, là, Saut X. Et je me suis dit, putain, ils osent encore en 2020. Alors c'est 2023 du coup, nous balancer un gros morceau de rock à la fin du film.
Ouais.
Je sais, mais non quoi, enfin c'est stop, arrêtez.
Ça se fait plus, arrêtez de faire ça.
Ça
en
devrait
fait
être interdit, enfin stop, arrêtez vos conneries quoi. Mais bon.
Parce que du coup voilà, c'est ma déception, j'ai pas été foutu de mettre un film d'horreur dans l'histoire. Bon, c'est pas grave, j'avais d'autres matos.
Ah, bien sûr, il y avait Oum le Dauphin.
Il y avait Oum le Dauphin, c'était un film d'horreur ou Oum le Dauphin. Il y avait Vladimir Cosmo. Allez, c'était donc mon dernier morceau, mais il reste ton dernier morceau, et j'ai envie de dire notre dernier morceau,
ouais,
à nous tous,
tout à fait.
Pour la dernière sélection de cet ultime scoring.
Les Bruno, c'est pour vous. We'll be right back. Ah, j'en chialerais. Ouais.
Ah bah oui.
J'en chialerais. Mais en même temps, tout est dans le titre. We fight for love. We fight for love, Ron. Et ouais, t'as fait ton au revoir. Je fais mon au revoir aussi. Voilà, c'est pas évident. J'ai pas commencé l'enregistrement de manière sereine. Je dois te le dire quand même.
Un peu d'émotion quand même.
Il y a de l'émotion. Il y a ouais, c'est la dernière quoi. Ça va faire, je sais même plus. J'ai dit il y a pas longtemps, 7 ans, 8 ans, je sais plus, qu'on a lancé VHS et Canapé avec Bilou. Il y a eu des très très hauts. J'ai passé des moments incroyables et notamment, alors ça va faire très peut-être très cucu, ça va faire très très de genoux ce que je vais faire là, mais ouais, ça fait plaisir d'avoir eu autant de retours pendant toutes ces années quoi. C'est surtout ça. Et quand j'ai annoncé que je partais sur les réseaux sociaux, ouais, vous m'avez envoyé des messages de dingue. Et c'est là en fait où tu comprends que ouais, nous on faisait les cons, je dis toujours ça, on s'amusait derrière nos micros à essayer de transmettre le plus de choses possible dans les scorings. Ou dans les dossiers VHS, ou dans les C'est alloué, ou dans peu importe les formats qu'on a fait. On en a fait beaucoup des formats.
On en a fait pas mal, oui.
Et même si je continue d'autres choses à côté et que j'ai voulu amoindrir un petit peu mon activité, notamment sur Twitch et me tourner un petit peu dans le jeu vidéo, ouais, c'était dingue de voir autant de messages, autant de remerciements de gens qui nous ont écoutés dans des moments pas évidents, d'autant plus quand vous me dites ça, quand j'ai eu des moments pas évidents. C'est des retours qui sont très, qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis de m'accrocher aussi, de me rendre compte que bah, voilà, j'avais aussi apporté quelque chose à certaines personnes, que de fait de lancer cette émission et de vous accompagner pendant autant d'années, bah, ça vous a parfois permis de traverser des moments pas drôles. Et ouais, merci à toutes et à tous pour vos messages, pour vos partages, pour les dons parfois que vous avez fait avec le Patreon tardif. Voilà, c'est pas évident parce que avec VHS, quand c'est aussi long, on traverse un petit peu tout. J'ai tenu longtemps, j'ai eu pas mal de réflexions, mais là, voilà, il fallait que je tourne la page et me reposer un petit peu. Je peux vous dire, voilà, pour ceux qui s'inquiétaient, parce que j'ai eu pas mal de messages, voilà, ça commence à aller mieux aussi. Voilà, les temps sont pas évidents et un peu comme Rhône, voilà, j'ai essayé de me reconcentrer sur d'autres choses et je pense que je suis dans la bonne voie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces nombreuses années en compagnie de Rhône et moi. Comme mon camarade l'a dit, logiquement VHS et Canapé, ça continue. Il y a d'autres personnes de talent qui sont derrière les micros.
Exactement.
Donc on compte sur Bilou, sur Nico et sur notre ami... Rano,
c'est le Marseillais, c'est le nazi.
Le temps de ravaler ma salive. Que Rano, voilà, Rano sont toujours dans l'aventure. Il y a des projets que je continue moi sur Twitch où j'inviterai des gens de VHS et Canapé. C'est notamment Rano hein, qui aime bien les jeux vidéo, le cinéma et voilà, qui aime bien aussi partager tout ce qui est sorti VOD, SVOD. Donc j'ai des choses que je veux proposer encore sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et je suis aussi maintenant sur Peggy18 qui est mon petit podcast jeux vidéo, un petit peu le VHS et Canapé, le pendant VHS et Canapé du jeu vidéo avec du bis, des trucs qui tâchent. Avec une
c'est marrant,
nouvelle équipe,
c'est un peu retour aux sources, parce qu'ensemble, on enregistre effectivement depuis très très longtemps.
Ouais, ouais.
On a commencé à enregistrer ensemble sur le jeu vidéo.
C'est ça, ouais, c'est vrai.
On avait créé la Beatsbox qui était scoring version jeu vidéo. Scoring est une évolution hein, de la Beatsbox. Et tu reviens au jeu vidéo. C'est cool.
Ouais, c'est ça. Je tourne. Voilà, je reviens au jeu vidéo. Je reprends beaucoup de plaisir à rejouer en ce moment au jeu vidéo avec les différentes choses qui sortent, les différents formats qui existent. Mais voilà, et on pouvait pas partir sans vous dire au revoir. Donc c'est pour ça que ce scoring est là. C'est pour vous remercier et vous dire au revoir. Et puis pour vous dire que, en ce qui me concerne, je pense qu'on pourra éventuellement se retrouver ici ou là.
Moi aussi, voilà. Parce que je ne disparais pas complètement. Je vais continuer l'auberge des darons. On n'est pas du tout sur le même créneau.
Bah voilà, ouais, tu continues quand même certaines émissions.
Là, on est plus sur la société, de la politique, le machin, des trucs dont je ne parle pas dans VHS Canapé. Bon, en vrai, j'en parlais quand même en 12.
De temps en temps. Des cartouches.
je mettais des cartouches juste. Mais ce sera plus que ma seule activité. Moi, j'ai même disparu des réseaux sociaux. Ouais, j'ai arrêté.
Ouais, c'est. Ça fait pas de mal. Moi, je me suis reculé un petit peu et ça fait pas de mal.
Ouais, mais c'est, je suis toujours entre deux eaux, parce que ouais. C'est un peu ce que tu disais, tout ce qu'on a pu faire, ça a aussi été beaucoup de rencontres.
Absolument.
Beaucoup d'échanges avec des gens, alors certains qu'on a rencontrés, qui sont même, alors même si on se voit pas tous les jours, j'ai presque envie de dire qu'il y a des copains hein, qui, sont,
ouais,
qui se sont tout de même, ouais. Sont même créés. Je suis très content de connaître Heroïna, par exemple, c'est une très belle rencontre qui me vient en tête. Il y a des gens avec qui on a échangé régulièrement, et l'air de rien, on se connaît un peu quand même, et on voit des gens qui sont sympas, qu'on est content de croiser dans une mine en Arlande ou à une occasion ou une autre. Ce côté-là est quand même vraiment très agréable, mais bon, il y a l'autre pendant qui est plus compliqué.
En tout cas, nous, on a eu la chance d'être suivis généralement. Voilà, on a eu la chance de ne pas être menacé de mort, on a eu la chance de ne pas être insulté, on a eu la chance de ne pas, voilà, de pas avoir eu de haters. Quand je vois encore le nombre d'étoiles qu'il y a sur iTunes, etc., voilà, on a été, je pense, pas mal supportés. Et vraiment, voilà, vraiment merci. Pourtant, on faisait ça pour vous, alors pour nous aussi, forcément, mais on était tellement contents d'avoir régulièrement des retours et justement d'échanger avec vous que ça nous poussait à continuer depuis aussi longtemps. Là voilà, pour nous en tout cas il est temps de passer à autre chose, mais c'est pas pour ça qu'on vous oublie, au contraire, voilà, et on vous remercie pour toutes ces années. Et puis bah, il reste plus qu'à dire, faire le plus compliqué, à dire voilà, au revoir et merci,
et absolument
à bientôt sur d'autres aventures, voilà,
et continuez d'écouter des podcasts, les podcasts c'est cool,
tout à fait, et surtout portez-vous bien, voilà, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous surtout, voilà, c'est, n'oubliez pas que c'est le principal, parfois on le perd de vue, c'est le principal, prenez soin de vous et à bientôt les amis,
salut salut.